explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
C'est un train mythique. Il chevauche les plaines, les steppes, la taïga, les collines boisées et les montagnes de deux continents, l'Europe et l'Asie. Bienvenue à bord du Transsibérien. Si vous faites le trajet d'un bout à l'autre en une seule fois, vous partirez de Moscou pour arriver 7 jours et 6 nuits plus tard à Vladivostok, après avoir traversé 7 fuseaux horaires et 80 villes. 9 280 km de chemin de fer, de quoi faire de nombreuses découvertes et pas mal de rencontres. L'écrivaine Géraldine Dunbar en a fait l'expérience. Elle raconte son périple dans un livre intitulé « Seule sur le Transsibérien, mille et une vies de Moscou à Vladivostok » aux éditions Transboréal. Cet après-midi, elle vient nous raconter ce long voyage aller-retour qu'elle a effectué à bord de ce train de légende. Et en fin d'émission, la journaliste Lucie Azéma viendra nous présenter son livre « Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ ». Voilà pour le programme de cette émission préparée par Hugo Struna et réalisé par Marie Casanova et Étienne Bertin, avec à la technique Julien Dumont. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Position.
Gare Yaroslav. Kosmoloskaya. Place des Trois Gares. 9285 km.
Ça y est, c'est parti, départ de la gare de Yaroslav à Moscou. Des sons qui doivent vous rappeler quelque chose, Géraldine Dunbar.
Oui, tout à fait, ça me fait très plaisir d'entendre ces sons. C'est un train qui est absolument mythique, il faut le dire. C'est une expérience absolument extraordinaire qu'il faut vivre une fois dans sa vie. Alors ce voyage, vous pouvez le faire en 7 jours et 6 nuits, mais vous pouvez aussi vous donner le temps et le faire pendant plusieurs mois. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant 4 mois, je suis partie à bord du Transsibérien, de la gare Yaroslav jusqu'à Vladivostok, mais en faisant escale dans de nombreuses villes et campagnes.
Oui. C'est ce que vous allez nous raconter, mais restons sur cet instant du départ. Vous qui aviez rêvé ce départ, ce train, au moment où vous pénétrez à l'intérieur de votre wagon, dans quel état d'excitation êtes-vous ?
J'étais un petit peu stressée quand même parce que je partais pour vivre une formidable aventure. Je n'avais absolument rien préparé, tout était improvisé. Mon sac était très léger, il pesait seulement 6 kilos. J'avais le strict minimum pour une promenade prolongée en Sibérie.
Pour 4 mois ?
Pour 4 mois.
6 kilos, oh, c'est bien. Vous voyagez léger, effectivement.
C'était très léger. J'avais emmené avec moi juste un pantalon, une chemisette de rechange, deux cahiers, une carte du monde et un jeu d'échecs.
Voilà. Important, le jeu d'échecs pour pouvoir nouer des contacts sur place, évidemment, parce que les heures sont longues à bord du Transsibérien.
Tout à fait, c'est un excellent moyen de briser la glace.
Alors, de l'extérieur, à quoi ressemble-t-il ce train ?
Alors, le premier train que j'ai emprunté, c'était le train Rassia, Russie.
Lui, c'est le vrai Transsibérien.
C'est le vrai Transsibérien qui effectue le parcours en 7 jours et 6 nuits. C'est un train qui est haut de gamme. Le premier train que j'ai emprunté, je voulais me rassurer parce que je savais que ça allait être un très long voyage. Donc, j'ai fait le voyage de Moscou à Yekaterinbourg, 1800 km, à bord du train Rassia, qui est un train confortable, où il y a deux classes, la première classe et la seconde classe. Je l'ai fait en seconde classe et mon premier compagnon de voyage s'appelait Kostia, c'est un cheminot qui se rendait en Sibérie pour vérifier les rails pour une mission de 48 heures. Il faisait 6 jours aller et 6 jours retour.
On ne pouvait pas mieux tomber pour commencer ce voyage d'être avec un cheminot qui du coup partageait votre intérêt et votre passion pour les trains.
Tout à fait, c'était ma rencontre la plus forte d'ailleurs.
Ouais. Il était très sympathique, vous dites une extrême bonté ce cheminot.
Tout à fait, une très grande bonté, quelqu'un qui avait des conditions de vie assez difficiles, mais qui ne se plaignait pas. Et qui m'a parlé de son pays avec beaucoup, beaucoup d'amour. Il m'a aussi avoué qu'il était un athlète. Il avait été médaillé de bronze au championnat d'Union soviétique dans les années 60.
Vous dites avoué comme si c'était une faute lourde d'avoir eu cette médaille.
Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on est amené à rencontrer des gens qui ont des destins hors du commun. Jamais j'aurais pu imaginer démarrer ce voyage aux côtés d'un cheminot. C'est ce qui s'est passé. Et finalement, ça a été la plus belle introduction pour moi à l'âme slave.
Alors, ce train traverse des paysages immenses. C'est un peu le trajet de la démesure. Vous passez sur un pont, par exemple, assez rapidement, qui enjambe la Volga, donc cet immense fleuve de 3700 km de long. Et le pont lui-même s'étend sur plus d'un kilomètre. Est-ce qu'il vous est arrivé, quand vous étiez à bord de ce train, de penser aux hommes qui ont construit une telle voie ferrée de plus de 9000 km?
Oui, j'ai régulièrement pensé à eux, bien sûr. Le Transsibérien, ça a été une entreprise absolument incroyable qui a été lancée par le tsar Alexandre III en 1891. À l'époque, c'était complètement fou. C'était un projet vraiment démesuré. En l'espace de quelques années, ils avaient posé déjà 5000 km de rails et lors de l'exposition universelle à Paris en 1900, ils avaient présenté à l'époque un compartiment de train. Et là, ça y est, le rêve avait commencé.
Il a fallu 10 années pour construire cette voie ferrée de plus de 9000 km, la plus longue du monde. Ça paraît relativement court, hein, pour en plus avoir fait ça, vous l'avez dit, à la fin du 19e siècle.
Oui, c'est incroyable. Et ils ont dû mobiliser une main-d'œuvre qui a beaucoup souffert. Je pense notamment à tous les bagnards, aux prisonniers politiques à l'époque tsariste, aux centaines de milliers de migrants chinois aussi, qui travaillaient sur cette voie. Ça a été une entreprise lourde qui a beaucoup coûté en termes de vie humaine. Des milliers de personnes sont décédées, frappées par le typhus, la malaria, le choléra, morts de froid, de fatigue. Ça a été très lourd.
Et la construction de cette ligne de train a évidemment changé la géographie, en tout cas les habitations des hommes, puisque des villes ont poussé tout au long de cette ligne, des villes industrielles. C'était d'ailleurs l'une des raisons de la construction de cette ligne, c'était l'essor économique.
Oui,
évidemment.
Tout à fait.
Alors vous, ce ne sont pas tant ces considérations économiques et industrielles qui vous ont conduit dans ce train. En fait, votre attrait pour la Russie, on va en parler dans cette émission, ne date pas d'hier. Et votre attrait en particulier pour ce train, il est né peut-être dans les livres. C'est-à-dire que beaucoup d'auteurs ont décrit ce train. Le Transsibérien traverse l'œuvre de beaucoup d'auteurs. Et on sent que vous avez un peu reçu ça comme une invitation au voyage.
Oui, tout à fait. Lorsque j'étais à Londres, j'ai lu beaucoup de classiques russes, en fait. Anna Karenine m'a fait rêver, vraiment. Oui. J'ai lu également beaucoup d'autres ouvrages où l'on parle du train, comme Le Docteur Jivago, également Le Voyage au cœur de l'esprit de Leslie Blanche, on en parlera tout à l'heure. Oui. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fait rêver, le train.
Oui, alors parmi les écrivains qui vous ont peut-être fait prendre ce Transsibérien, il y a Blaise Cendrars, peut-être, oui, aussi, qui en a parlé, qui lui-même a longtemps séjourné en Russie. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait d'un poème de Blaise Cendrars, La prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. C'est lu par Gabriel Guffet.
Tous les matins, on met les montres à l'heure. Le train avance et le soleil retarde. Rien n'y fait. J'entends les cloches sonores, le gros bourdon de Notre-Dame, la cloche aigrelette du Louvre qui sonna la Barthélemy, les carillons rouillés de Bruges-la-Morte, les sonneries électriques de la bibliothèque de New York, les campagnes de Venise et les cloches de Moscou. L'horloge de la Porte Rouge qui me comptait les heures quand j'étais dans un bureau et mes souvenirs. Le train tonne sur les plaques tournantes. Le train roule. Un gramophone grasseille une marche tzigane. Et le monde, comme l'horloge du quartier juif de Prague, tourne éperdument à rebours. Effeuille la rose des vents. Voici que bruissent les orages déchaînés. Les trains roulent en tourbillon sur les réseaux enchevêtrés, bilboqués, diaboliques. Il y a des trains qui ne se rencontrent jamais. D'autres se perdent en route. Les chefs de gare jouent aux échecs. Tric-trac, billard, carambole, parabole. La voie ferrée est une nouvelle géométrie. Thank you.
une chanteuse russe, Semko Namchilak, qui chantait Dance of Eagle pour nous accompagner sur France Inter, le temps d'un bivouac avec Géraldine Dunbar, écrivaine, spécialiste de la Russie.
Mais quelle est donc cette force irrésistible, mystérieuse qui attire vers toi, Russie ? Comment puis-je entendre ton chant puissant, mélancolique, qui retentit d'une mer à l'autre entre tes immenses frontières ? Qu'a-t-il donc ce chant ? Quels appels, quels pleurs cache-t-il ? Il étreint nos cœurs, il fait naître l'angoisse, il pénètre nos âmes. Russie, que veux-tu de moi ? Quel est ce lien profond qui nous unit l'un à l'autre ? Pourquoi me regardes-tu ainsi ? Et pourquoi tout ce qui vit et palpite en toi se tourne-t-il vers moi avec des regards pleins d'attente ? Perplexe, immobile, je te contemple. Une nuée épaisse descend, lourde de tempêtes menaçantes, et ma pensée s'étue devant l'immensité de tes espaces. Quel avenir cache ces étendues sans limite ? Toi, qui n'as aucune borne, seras-tu la patrie de la pensée infinie ? Ô terre de splendeur, de merveilles inconnues, ô Russie.
Lecture d'un extrait des âmes mortes de Nicolas Gogol par notre invitée Géraldine Dunbar. Je vous pose la question que pose Nicolas Gogol dans ce texte, Géraldine. Quelle est donc cette force irrésistible qui vous attire vers la Russie ?
C'est quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. En fait, ça a démarré très tôt dans mon enfance. Ma mère avait beaucoup de livres d'histoire et géographie à la maison. Elle avait notamment un grand atlas qui représentait l'Union soviétique en rouge, le plus grand pays du monde. À l'époque, c'était le monde interdit. On était en pleine guerre froide. Et au lieu de m'effrayer...
Ça vous a attiré.
Voilà. Le pays m'a attirée. Et j'étais d'autant plus attirée en lisant les noms de villes, Omsk, Tomsk, Krasnoyarsk, Irkoutsk. C'était des noms avec des sons tellement intéressants, tellement pittoresques. J'étais très attirée. Au départ, le transsibérien n'était pas mon premier rêve. Mon premier rêve, c'était de partir dans l'espace. Et j'avais écrit à l'âge de 13 ans à Gorbatchev, j'avais demandé l'autorisation de partir à bord d'une fusée russe, de partir jusqu'à la station Mir.
Vous avez eu une réponse ?
Non.
Étonnant.
Donc le rêve s'est vite terminé.
Oui. Il a fallu revoir à la baisse ses ambitions peut-être.
Voilà.
Vous partez quand même relativement tôt, en 1992, votre premier voyage en Russie.
Oui.
Vous êtes allée où ?
Je suis allée à l'époque à Saint-Pétersbourg, j'avais 19 ans. Je suis partie pour un séjour linguistique de 2 mois et j'étais logée dans un appartement communautaire avec 5 autres familles. C'était une expérience très intéressante, difficile à vivre au quotidien puisqu'à l'époque il y avait pas mal de pénuries. Mais c'était une expérience très riche, très très riche. Il y avait beaucoup d'amour et finalement on n'avait pas grand chose à manger à l'époque. Mais tout cela était compensé par les rires, la fête tous les jours.
Donc ça a renforcé votre intérêt, votre attrait pour ce pays, pour la Russie et pour ses habitants. Alors 12 ans plus tard, vous prenez ce transsibérien en 2004. Et alors, ce qui est un petit peu curieux, vous le prenez après avoir pris le métro parisien. Il est des tunnels qui font des raccourcis un peu inattendus parfois.
Oui, tout à fait. En fait, le 7 mai 2003, j'ai acheté vraiment par hasard un guide sur le transsibérien. C'était le premier guide disponible en langue française. Et je m'étais dit que c'était juste un rêve et que jamais j'allais arriver à le concrétiser. Mais le lendemain, j'ai pris le métro et à la station Bastille, un homme m'a approché. Et il m'a demandé si j'étais russe. Il m'a regardé, il a dit « «Вы русская?» ?» Et j'ai dit non, mais que la Russie me manquait. Et j'ai dit « «C'est étrange que je vous rencontre, puisque je viens d'acheter le guide du Transsibérien.» » Et on est monté à bord du métro et je m'étais dit, si cet homme me conseille de ne pas partir seule en Russie, je ne le ferai pas. Parce que c'est pas évident pour une femme de voyager seule jusqu'au bout de la Russie.
Ça peut être dangereux ?
Sincèrement, oui. Sincèrement, oui. Disons que ce n'est pas très raisonnable de partir plusieurs mois seule, sans aucun contact sur place en Sibérie. C'est ce que j'ai fait et à une ou deux reprises, j'ai quand même eu peur. Je n'en parle pas trop dans le livre parce que c'est pas le but. Ouais. Je voulais surtout intéresser les lecteurs et leur donner envie de partir à l'aventure. Mais c'est vrai que c'est
quelques frayeurs quand même.
Il y a eu quelques frayeurs.
Cet homme, au contraire, ne vous dit pas « Niette, c'est trop dangereux, n'y allez pas ». Au contraire.
Au contraire.
Il vous encourage.
Il m'a dit « Bonne chance » et il m'a dit « Tout ira bien, Géraldine, oui. Géraldinka ». En l'espace de 5 stations de métro, cet homme a changé ma vie. Et je ne l'ai jamais oublié. Et d'ailleurs, je le remercie à la fin du livre. Il s'appelait Slava. Il travaillait au noir à Paris, il était plutôt malheureux, mais cette rencontre a été vraiment extraordinaire. Le destin russe, dans toute sa splendeur, m'a frappé au cœur d'une rame de métro à Paris.
Voilà, et vous a transporté jusque dans ce transsibérien. Alors, quelles sont les grandes étapes de ce train qui traverse toute la Russie pour arriver jusqu'à Vladivostok ?
Alors, les grandes étapes, il y en a plusieurs. Je suis partie, en fait, un an jour pour jour après avoir acheté le guide du Transsibérien. Je suis partie le 7 mai 2004. Ma première grande étape, ça a été Ekaterinbourg. Ensuite, Novosibirsk, Krasnoyarsk. À Krasnoyarsk, mon rêve, c'était de naviguer sur le fleuve Yenisei, qui est un des plus longs fleuves de la planète, 4000 km.
Donc ça se fait pas en train, on est d'accord. Une fois que vous êtes descendu du train, vous montez, vous changez d'embarcation.
C'est un peu difficile de le faire en train, effectivement. Donc je suis partie dans un petit bateau. J'ai eu la frayeur de ma vie.
Ah oui, pourquoi ?
Parce qu'il pleuvait à torrents et j'étais dans un tout petit bateau de 12 mètres de long et je me suis dit, c'est pas possible, il va couler, il n'y avait pas de gilet de sauvetage. Enfin, et tout cela n'inquiétait absolument personne, sauf moi. Mais c'était une expérience extraordinaire qui m'a permis de découvrir des paysages dont je ne soupçonnais pas l'existence.
Oui, alors il y a par exemple les monts de l'Oural que l'on traverse avec ce train. Ça serpente vraiment le long des montagnes. À quoi ça ressemble ? Comment ça se passe quand on est dans le train et qu'on voit tout ça ?
On a l'impression d'être dans le Grand 8 en fait. On a l'impression d'être sur un manège.
Ouais.
Il y a des virages qui sont assez forts quand même dans le Transsibérien,
on peut
surtout
être malade.
À l'approche de l'Oural.
Est-ce qu'on peut être malade à bord du Transsibérien ? Parce que ça tangue tellement que certains ont le mal des transports.
Non, on ne peut pas être malade parce qu'en fait, l'allure est très lente. On va à une allure moyenne de 80 km/h. C'est très agréable. Ça nous permet de buller. De s'adonner à des rêveries extraordinaires. Donc non, j'ai pas eu le vertige, j'ai pas eu des envies de vomir.
Ouais. Et le paysage donc défile devant vous. Quels sont les paysages que vous avez vus défiler lors de votre trajet ?
Alors on traverse toutes sortes de paysages. On traverse des plaines, on traverse des steppes, la steppe Baraba jusqu'à Novosibirsk. On traverse des collines boisées, on traverse des montagnes, on enjambe des fleuves extraordinaires, la Volga, l'Ob, l'Yenisei. L'amour aussi.
Quel nom d'un fleuve ?
Le nom d'un fleuve, et quel nom ?
Oui, évocateur s'il en est.
Voilà. Tout cela fait vraiment rêver, et on vit le rêve. On le vit vraiment.
Tout cela dans cette bulle, on pourrait dire, du train, où il y a le chef de train, le contrôleur, tout un personnel qui vous accompagne pendant cette traversée. Je vous propose d'en entendre.
Chef de train, oh là là, vous savez, c'est une grande responsabilité, à plus forte raison quand il s'agit d'un train de prestige comme le Transsibérien. Il faut être au service des passagers à tout instant, s'assurer de leur bien-être, de leur confort, et puis, règle d'or, anticiper même sur leurs désirs avant de les satisfaire.
Très peu de passagers font le trajet Moscou-Vladivostok en une seule fois. Et ceux qui le font doivent être préparés mentalement et psychologiquement. Une semaine entière dans un train n'est pas forcément évident, mais nous faisons tout pour rendre ce voyage agréable.
Alors, un chef de train et puis une contrôleuse qui prennent apparemment leur mission très à cœur à bord de ce transsibérien. Et vous avez, je crois, noué des vraies amitiés hein, avec le personnel du transsibérien vous-même, Géraldine Dunbar.
Oui, tout à fait. En fait, ce sont de véritables anges gardiens puisqu'ils sont bien occupés de moi pendant mon voyage. Il y a en fait un ou deux provodniks ou provodnitsa par wagon.
Une contrôleur, contrôleuse.
Ce sont des contrôleurs, effectivement, mais plus que cela, ils apportent vraiment quelque chose aux voyageurs. Ils apportent une écoute, déjà. Ils soutiennent les voyageurs qui se rendent dans des contrées lointaines pour un mariage ou pour un enterrement, pour un événement familial. Et ils apportent vraiment beaucoup de choses. Moi, j'ai été émerveillée par une contrôleuse qui, lors d'un arrêt, était sortie du wagon dans la taïga. Elle avait cueilli un bouquet de fleurs sauvages en pantoufles et elle était revenue en disant « Moi aussi, je suis une aventurière » et elle m'avait tendu un énorme bouquet de fleurs sauvages orange. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est là qu'on aperçoit l'âme russe dans toute sa splendeur. Elle surgit de façon la plus inattendue. Oui. Et ce sont des moments extraordinaires.
Ce que vous ne précisez pas, c'est qu'elle prenait le risque que le train parte sans elle,
cette
contrôleuse, pour pouvoir vous offrir un bouquet de fleurs. Elle a pris quand même le risque de se retrouver toute seule au milieu de la taïga.
Tout à fait, mais les Russes sont ainsi et c'est pour ça que je les aime. Ce sont des gens spontanés. J'aime leur joie de vivre, leur simplicité, leur bonté, leur générosité, leur folie douce aussi. Mm-hmm. Ce sont des gens qui sont capables de faire de chaque jour qui passe une fête. Et ça me plaît vraiment chez les Russes.
Alors quelle est l'ambiance à bord de ce train justement, puisque vous dites ils ont l'âme slave, la fête n'est jamais loin. Mm-hmm. Ce sont des très longues traversées. Quelle est l'ambiance à bord?
C'est une ambiance de fête. Le Transsibérien, en fait, c'est une deuxième maison pour les Russes. Très souvent, lorsqu'ils s'installent dans le train, ils changent d'habit, ils mettent un survêtement, des chaussons, ils font comme à la maison.
Ah oui, ça devient une deuxième maison.
Ça devient une deuxième maison sur les rails. Mmh. Ils mettent un petit bouquet de fleurs, ils mettent beaucoup de provisions sur la tablette, ce qui est impensable dans les trains français. Et là, démarre le partage, et c'est ça qui rend l'expérience aussi belle. C'est vraiment une expérience de partage, et donc d'amour.
Ouais. Et comment sont décorés les compartiments? À quoi ça ressemble l'intérieur de ce train?
C'est très pittoresque. Les rideaux sont charmants, ce sont des rideaux, bon, ils sont synthétiques.
Oui. C'est un peu kitsch.
Un petit peu kitsch, mais ça fait tout le charme. Il y a très souvent des fleurs, des journaux, des tasses de thé. Il y a un samovar dans le wagon qui nous invite donc à préparer le thé. On peut également s'adresser à la provodnitsa pour demander de la soupe ou des œufs. Très souvent, les provodnitsa à bord du train m'ont proposé de la soupe faite maison. Ah à oui. bord du Transsibérien.
Ouais. Donc on mange bien. Est-ce qu'on dort bien aussi dans ce train?
Moi, j'ai jamais aussi bien dormi que dans le Transsibérien. Ouais. C'était un bonheur absolu, comme un bébé.
Des couchettes, des draps propres.
Des draps
propres. Vous dites que c'est le meilleur moment, le moment où on déplie son drap et qu'on s'endort bercé par le train.
Tout à fait. Les oreillers sont extrêmement moelleux, beaucoup plus moelleux que ceux de la SNCF. Je suis désolée de le dire. Mais c'est vrai, ce sont des oreillers très moelleux. Les draps sont très frais. Ils sont ornés de motifs pittoresques, des papillons ou des fleurs. Et c'est un bonheur. Moi, je me suis sentie vraiment comme à la maison.
Ouais. Mais d'ailleurs, vous dites, parce qu'évidemment, vous faites des escales, des haltes, où vous allez visiter des villes. Et à un moment, je ne sais plus dans quelle ville, mais vous dites, j'avais besoin de retourner dans le train. C'est vraiment votre cocon protecteur, vous vous y sentez bien, et parfois, c'est là que vous êtes le mieux.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de très étrange que je n'explique pas. En fait, lorsqu'on fait escale, on commence à ressentir le manque du train. On a besoin de sentir à nouveau le claquement des roues contre les rails, ouais. d'entendre cette mélodie qui est extraordinaire, qui est authentique, et puis se sentir bercé dans ce compartiment, dans une lumière très douce, très feutrée. Et de voir les forêts défiler par la vitre.
Mmh. Et un passager aussi qui vous fait remarquer, on devient addict au mouvement, c'est-à-dire que les passagers presque deviennent fous quand le train ne roule plus.
Oui.
On a besoin que ça avance pour avoir, je sais pas, l'impression de d'avancer soi-même dans la vie,
Oui,
sais pas.
C'est vrai, c'est un passager russe qui m'a dit ça. J'étais un peu inquiète lorsque le train s'est arrêté, ce qui m'a dit on serait capable de devenir fou et de tuer quelqu'un lorsque le train ne bouge pas.
Ah oui, c'est vrai. Dit comme ça, c'est encore plus inquiétant, vous avez
raison. C'était un peu inquiétant.
Allez, un petit aperçu des gens que l'on croise à bord du Transsibérien.
Parfois vous dormez beaucoup, parfois vous lisez, ou bien vous faites des activités créatives. Par exemple, on a fait des jouets et des colliers de perles dans ce train.
Je suis heureux ici, assis dans le train. J'admire le paysage, je vais dans des endroits inconnus. Je trouve ça fascinant. C'est la plus belle épopée qui existe à travers toute l'Europe et l'Asie. Il n'y a pas de retard et tout est très confortable. Je ne pouvais pas rêver mieux. Je pourrais rester dans ce train pour toujours. C'est parfait. En plus, nos femmes ne sont pas là.
Effectivement, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance à bord de ce train, Géraldine Lombard. Vous reconnaissez un peu de l'esprit que vous avez connu pendant ces quelques mois ?
Tout à fait. Il y avait beaucoup d'ivresse à bord du train, beaucoup de chants aussi, des blagues. Les Russes aiment beaucoup raconter des blagues. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié leur humour et leur simplicité, tout simplement.
Avez-vous aperçu par la fenêtre des cactus lorsque vous traversiez la Sibérie ?
Non.
Il n'y a donc pas de cactus en Sibérie et pourtant, Oxmo Puccino chante les cactus de Sibérie sur France Inter.
Cactus de Sibérie. Conscient qu'une simple présence peut gêner, je ne suis pas venu traîner. Juste le temps de me présenter, l'entité à l'existence réfutée, enterrée puis ressuscitée. Trêve de plaisanterie, je suis le cactus de Sibérie. Peu m'ont vu très, la crème de la crème, une espèce unique. Les gens adorent les couleurs flamboyantes, pas ceux qui les portent. Raison pour laquelle tu me verras pas dans un parc, plutôt nuit. Carré dans un parking, en train de smoke entre cactus. J'essayais de faire une place là où la glace ne fond pas. J'ai quitté la queue et goûté la mise à l'écart. Bleu, il est tard et tout ce que m'inspire cet abribus. Cette habitude me fait ressembler au cactus de Sibérie. Cactus de Sibérie. Tellement les pieds sur terre que j'ai pris racine sous ce calme des épinales à nitroglycérine. C'est vrai qu'à la fontaine, chacun veut trois verres de lait. Je préfère rester là, planté à râper et des laits. J'aurais pu être plus commercial qu'un bouquet de roses. Saint-Valentin m'avait pas volé toutes mes proses. De ceux qui n'attendent pas qu'on les arrose et durcisse. Le temps n'a pas déformé mes propos, ils mûrissent. Tu as perdu la température des pyramides, refroidi d'avoir fréquenté les pires amis. Tu payes qu'ils étaient piquants. Les gens veulent du piment, va te frotter, tu connaîtras de nouveaux sentiments. Cactus de Sibérie. Cactus de Sibérie. Un jour Tony m'a dit Ox, t'as trouvé plus de joie dans la tristesse que toi dans la joie. Plus qu'un petit coup de pouce de l'extérieur, mon flot réconforte ceux dont les pics poussent vers l'intérieur. Tire ta peine vers le haut, que ton plaisir atteigne des sommets. Grave, c'est moi capitaine de ce bateau. Ma sève est mélodique, savais-tu qu'un cactus avait une fleur. Au milieu des pics se cache un cœur. On t'a offert un cactus de Sibérie. En effet, c'est moins pénible qu'un bouquet qui fane. Pourquoi je garde mes fans? Car les yeux fermés, les aiguilles transforme en pétale. Cactus de Sibérie.
Position
Transsibérien, 65 km heure. Arrêt Moscou, Perm, Yekaterinbourg, Irkoutsk, Vladivostok.
Проехав на этом поезде
Vous pouvez apprendre beaucoup sur la Russie en traversant le pays de Moscou à Vladivostok. En observant les passagers, surtout les Russes, et en essayant de les connaître, vous comprendrez mieux notre mode de vie et ce qu'on appelle la mystérieuse âme russe.
On entendait le chef de train Vladimir Kosinov, et là, la chanteuse que l'on entend s'appelle Elena Frolova. C'est vous qui nous avez donné ce morceau. C'est vrai que c'est très très beau. Ça vous a accompagné lors de vos voyages en train, Géraldine Dunbar, à bord du Transsibérien?
Ouais, c'est magnifique. J'ose à peine parler en l'écoutant parce que c'est tellement beau. Sa voix est si cristalline. Elle est en train de chanter un poème de Marina Tsvetaeva. C'est une musicienne vraiment talentueuse et ça me fait très très plaisir qu'elle passe sur France Inter.
Ah bah c'est grâce à vous, merci. Merci. Alors Géraldine Dunbar, on se demande si lors de ces très très longs trajets, il vous est arrivé quand même parfois, même en musique, même avec les Russes, de vous ennuyer. Est-ce qu'on s'ennuie à bord du Transsibérien parfois?
Ça peut arriver, ça m'est arrivé lors du trajet retour, parce qu'en fait j'ai fait le trajet de Vladivostok à Moscou en train aussi, mais d'une traite, 7 jours et 6 nuits, et là c'est vrai que c'est très très long, et en plus de cela je m'étais promis de ne pas m'aventurer dans les autres wagons, je suis restée dans le même compartiment tout le temps avec les familles russes, donc c'est vrai que c'était un petit peu claustrophobique, mais c'était fabuleux comme expérience.
Alors, êtes-vous d'accord avec Sylvain Tesson, autre grand amoureux de la Russie que vous appréciez également et qui nous a dit « ça fait partie, voyager, c'est aussi faire voir du pays à son ennui. Ça fait partie du voyage de s'ennuyer. » Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Pourquoi pas?
Vous avez l'air surpris par cette phrase.
Oui, je suis un peu surprise parce que je trouve que c'est une pensée un peu pessimiste.
Oh bah, venant de Sylvain Tesson, on est qu'à moitié surpris, moi je trouve.
Et moi, je pense pas tellement à l'ennui. C'est pas du tout quelque chose qui me préoccupe. Je suis avant tout motivée par une démarche altruiste. J'ai envie d'aller vers les autres. J'ai envie de découvrir les Russes, leur culture. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de jouir de l'existence. Donc, je ne pense pas tellement à l'ennui métaphysique. C'est pas quelque chose qui me préoccupe.
Alors, dans l'équipe, nous avons un chroniqueur qui voyage beaucoup cet été, mais sans bouger de son canapé. C'est plus reposant. Il voyage par le cinéma et nous envoie régulièrement des cartes postale. Aujourd'hui, Jérémy Querené est logiquement monté dans un train, mais il s'est trompé de ligne. Il est monté à bord d'un autre train mythique, l'Orient Express.
De tous les trains long courriers, l'Orient Express est assurément celui qui a le plus servi de décor pour des films ou des romans. Il y a bien sûr le crime de l'Orient Express, écrit par une Agatha Christie qui en était cliente. Et puis Ian Fleming propulsa son personnage d'agent secret britannique dans L'échec de l'Orient Express, un livre adapté au cinéma en 63 sous le titre Bon baiser de Russie. Bon baiser de Russie est la deuxième apparition de James Bond au cinéma. C'est encore un vrai film d'espionnage avec faux-semblants et agents doubles. Un Bond avec peu d'action mais beaucoup d'ambiance. Bon baiser de Russie, c'est aussi l'une des meilleures James Bond girls.
Caporal des services de sécurité, Tatiana Romanova.
L'idylle de Tatiana Romanova et de James Bond symbolise évidemment une trêve fictionnelle et sensuelle entre les deux blocs. Une idylle qui s'épanouit à bord de l'Orient Express pendant plus de 25 minutes de film.
Alors, c'est vrai que nous sommes en route pour l'Angleterre.
Oui, avec 2 jours de lune de miel devant nous.
La lune de miel? Dommage que je n'ai rien à me mettre.
Ah.
Évidemment, à part quelques plans d'extérieur où l'on voit le train cheminer à travers plaines et montagnes, la scène de l'Orient Express a été tournée entièrement en studio, en Angleterre. Un train, après tout, n'est pas très difficile à reproduire. Hein. Quelques compartiments en bois, quelques couloirs, un wagon restaurant et hop, c'est parti. Et pour la bande-son, c'est assez facile aussi. Prenez une boucle discrète de... et parsemez le tout de quelques... Quoique étriqué, le train est un décor parfait. Il y a autant d'espaces clos que de compartiments. Les portiques claquent, de nouveaux passagers peuvent monter à bord à chaque escale et ça permet de relancer l'intrigue. Et d'autres peuvent même en descendre en pleine vitesse. C'est une vraie scène de théâtre. Le train fournit et justifie à la fois l'unité de lieu et l'unité de temps.
Je ne tiens pas à courir le risque. Je veux qu'on évite la douane à la frontière yougoslave, à Trieste.
On ne s'arrête pas avant. Faudra sauter en marche. Écoutez, on ne pourrait pas manger d'abord, je commence à avoir très faim.
Dans un train, on dort, on mange, on fait l'amour, on manigance. James Bond, lui, fait tout cela. Mais la scène la plus marquante est sûrement celle de la bagarre. Alors pour une fois, pas une bagarre sur le toit du train, mais dans une couchette grand luxe. Avec Tatiana, 007, bénéficie effectivement d'un véritable deux pièces à bord de l'Orient Express, ce qui permet par exemple d'isoler la belle russe quand il s'agit de parler affaires. Car dans Bon Baiser de Russie comme ailleurs, James Bond est toujours un incroyable misogyne. Ainsi, pendant la bagarre, la femme dort d'un côté, pendant que de l'autre, eh bien, les hommes s'échangent des coups. Rarement une bagarre de cinéma s'est déroulée dans un espace aussi étroit que cette cabine de train. Pas de place pour des coups de pied, pas de glissade possible, pas d'éléments à se jeter à la figure. Mais par contre, le décor regorge de recoins où on peut taper la tête de son adversaire, de portes coulissantes où l'on peut la coincer. Et puis dans un compartiment, notre main n'est jamais très loin du couteau, vous savez, celui qui est justement caché au fond de la valise. D'après la légende entretenue par les fans de James Bond, cette scène a nécessité 3 semaines de tournage pour seulement 2 minutes dans le film.
Allons au wagon restaurant, James, pour boire un verre. Je vous suis.
L'Orient Express, c'est un formidable décor pour les intrigues en général et les huis clos policiers en particulier. Et pour les espions, la ligne est surtout le point de passage de l'ouest à l'est, de Paris à Istanbul. D'ailleurs, pendant la guerre froide, à cause des lenteurs douanières, le trajet fut raccourci. Son histoire, réelle, autant que les fictions qu'il a inspirées, contribue à en faire toujours aujourd'hui un train mythique.
Tania, allez, réveille-toi ou je te laisse, tu entends ?
Non, ne me laisse pas, ne me laisse pas.
Géraldine Dunbar, le train de l'Orient Express, vous l'avez déjà pris ou pas celui-là ?
Non, je rêve de le prendre.
Il vous fait envie aussi ?
Oui, tout à fait.
Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Jérémy quand il parle de ce huis clos où se nouent les intrigues de façon peut-être plus forte, avec des personnages qui montent, qui s'en vont, et puis quand ils sont là, on est obligé de faire avec eux ? Dans la vie aussi, ça doit être vrai ça.
Oui, tout à fait.
Ouais. Vous l'avez ressenti comme ça aussi, ce huis clos ? Ouais. Pas pesant parfois ?
Ah si, ça peut être pesant. Ça peut être pesant, mais néanmoins, c'est ce qui fait la richesse de l'expérience à bord du Transsibérien. C'est ça qui est intéressant. Moi, je redoutais en fait plus que tout d'être seule justement. J'aurais jamais pu vivre cette expérience seule. J'aime être accompagnée avec des gens parfois un petit peu loufoques. Ça m'est arrivé pendant tout le trajet, pendant 4 mois, et c'était merveilleux. Merveilleux.
Alors après plus de 9000 kilomètres parcourus dans ce train, dans ce transsibérien, on arrive enfin, Géraldine Dunbar, à Vladivostok. Vous étiez partie de Moscou, vous arrivez combien ? 2 mois ? 3 mois plus tard à Vladivostok ?
Oui, c'est ça, c'est au moins 3 mois plus tard. J'y croyais pas, j'étais très émue et d'ailleurs lorsque je suis arrivée, j'ai acheté une bouteille de champagne. J'espérais pouvoir fêter cela avec des matelots à bord d'un navire de la flotte russe du Pacifique. Mais on m'a interdit d'approcher les bateaux, donc j'ai pas pu le faire. J'ai célébré cette arrivée avec des Russes dans un musée, un ancien sous-marin de guerre d'ailleurs.
Vous aimez bien les situations un peu barrées en fait.
Oui.
On s'en rend compte d'ailleurs dans votre livre, votre recueil de nouvelles, Bon baiser du Baïkal.
Oui. Le recueil effectivement comporte des nouvelles un peu déjantées. j'aime bien rire, j'aime bien m'amuser.
Géraldine Dunbar, je rappelle le titre de votre livre, Seule sur le Transsibérien, 1001 vies de Moscou à Vladivostok, aux éditions Transboréales. Et puis aussi ce recueil de nouvelles, Bon baiser du lac Baïkal. Merci à vous, Géraldine Dunbar.
Merci à vous.
Restez avec nous dans un instant avec la journaliste Lucie Azéma qui a publié Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ. Nous allons décortiquer le mythe de Pénélope qui attend sagement qu'Ulysse rentre à la maison.
De mon cœur tu tombes, dis-moi si tu sais te tenir à ton ombre, te tenir à leurs idées. C'est la peur qui gronde, dis-moi si c'est vrai qu'on a cassé le monde, qu'on a le dernier ticket. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé. Tu seras libre si t'es pas fatigué. pas de tigres, ni de gens s'aiment. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. De mon cœur tu plonges, dis-moi si tu sais compter les secondes sans tomber dans l'abîme. C'est la peur qui hurle qu'il te faut susurrer pour te faire entendre sans trop te faire remarquer. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. Il arrive, toi au moins tu sais, tout ça tient qu'à un fil qu'on a mal déroulé. Tu sais, c'est la honte qui me sert de papier. J'ai dessiné ta tombe avant même de te bercer. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes, on était fatigué. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes, on était fatigué.
C'était Kiki de Julien Doré, la programmation musicale du Temps d'un Bivouac est signée Muriel Pérez.
Le Temps d'un Bivouac. Daniel Fievé. Sur France Inter.
Faudra bien, Pénélope, que tu achèves un jour cette tapisserie, et il te faudra alors choisir un époux parmi les prétendants.
Non, aucun d'entre eux ne peut être digne d'être comparé à Ulysse.
Mais
qu'y a-t-il, Télémaque?
Je vais à la recherche de mon père. J'irai chez les vieux compagnons d'Ulysse, à Pylos, chez le roi Nestor, à Sparte, chez Ménélas.
Ne me quitte pas. Ne pars pas. Reste auprès de moi. Il ne faut pas me laisser. Ulysse est loin de nous. La seule chose qui compte, c'est cette toile que je tisse tout le jour et que je défais aux lueurs des torches. C'est grâce à cette ruse que j'ai réussi à éterniser leur attente. Et que j'attends en toute sérénité.
Pénélope, seule, attendant désespérément son cher et tendre Ulysse pendant que celui-ci voyage et vit de grandes aventures. Bonjour Lucie Azéma.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et voyageuse au long cours. Vous venez de publier « Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ » aux éditions Flammarion. Un ouvrage dans lequel, justement, vous détricotez ce mythe de Pénélope pendant qu'Ulysse parcourt le monde et enchaîne les exploits. Pénélope, elle, demeure immobile. Vous aviez envie d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette image.
Exactement. On a vraiment Pénélope qui est la figure sédentaire du voyage, en fait, qui tisse et détisse son ouvrage. Elle reste fidèle, elle élève Télémaque. Et pendant ce temps, Ulysse court les aventures à travers le monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a fondé l'imaginaire collectif occidental, en tout cas, avec le mythe gréco-romain. Et c'est finalement quelque chose aussi qui montre que le voyage est un peu le rite de passage de la masculinité. Pour devenir un homme, on voyage, on part à l'aventure. Alors que la femme trouve sa valeur sociale plus dans l'attente et la fidélité aux voyageurs, justement.
Durant votre enfance et votre adolescence, vous vous êtes passionné pour les récits d'aventures de grands auteurs comme Jack London, Jack Kerouac, pour n'en citer que deux. Et assez rapidement, Lucie Azéma, vous vous êtes interrogée sur la façon dont ces auteurs parlaient des femmes et sur la place qui était faite aux femmes dans ces livres d'aventures.
Oui, totalement. C'est vrai que Surtout, Kerouac, ça a été un peu le choc qui a un peu déclenché aussi cette démarche.
Dans la Beat Generation, pas beaucoup de place pour les femmes.
Hein. Elles ont une place, mais très spéciale et complètement dévalorisée. C'est soit le faire-valoir du voyageuse, c'est un peu des sous-voyageuses, ou alors elles sont utilisées de façon très sexuelle par Kerouac et consorts. Et donc, c'est vrai que j'avais envie, en fait, en tant que grande dévoreuse de livres de voyage, de chausser un peu les lunettes plus critiques et de notamment féministes sur ces récits.
Alors, vous citez des phrases un peu terribles. Hein. Il y a plusieurs citations qui vraiment... Il y en a une de Malraux qui est assez célèbre. Je vous laisse la citer.
Oui, les hommes ont des voyages et les femmes ont des amants. Et c'est vrai que c'est très décevant, mais ça illustre tout ça. C'est l'histoire aussi du marin qui a plusieurs femmes dans chaque port. Les femmes sont des ports d'attache, mais jamais elles ne partent.
Et puis vous notez que le mot aventurière, le mot même d'aventurière est connoté. En tout cas, il a longtemps été connoté péjorativement.
Oui, longtemps ça a été... En fait, la courtisane, enfin la prostituée de haut vol, en tout cas, et c'est... Il y a une différence sémantique entre aventurier et aventurière, ça c'est certain.
Ça fait que, jeune, quand vous lisiez tous ces récits, vous qui étiez dévoré par cette envie de voyage, Lucie Azéma, vous vous êtes dit, mais est-ce que vraiment je peux vivre une existence de voyage? Vous vous êtes posé cette question?
Oui, parce qu'on se sent très exclu. Alors quand on est enfant, petite fille, on a tendance en fait, s'identifier à beaucoup de personnages masculins, puisque c'est ce qui ressort le plus. Mais en grandissant, vraiment, j'ai eu un regard beaucoup plus distancié là-dessus. Et c'était très dur de ne pas me sentir exclue et même de ne pas me sentir insultée sur certains passages.
Et elle est essentielle, hein, cette question. Ça n'a rien d'anecdotique de se demander est-ce que les femmes, de la même manière que ces femmes qui gravissent l'Everest, est-ce que les femmes du monde entier ont le droit de voyager? C'est assez fondamental dans la façon de s'épanouir, dans la liberté.
Complètement. Et c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est que c'est un champ complètement sous-exploré dans les études féministes, alors que c'est vraiment, en fait, le voyage, c'est sortir. C'est sortir du foyer, c'est sortir de la maison. Et c'est vrai que même si en France, on n'a plus d'interdiction légale de voyager, il y a des pays comme l'Arabie Saoudite ou même on voyait le Népal où c'est pas simple d'avoir des papiers à soi-même. Finalement, il y a aussi toujours une difficulté pour les femmes. Il y a aussi beaucoup d'injonctions aussi. Et c'est ça que moi, ça me paraissait important d'essayer d'explorer ça, justement.
Alors, il existe quand même, hein, et vous le dites, des récits de voyages, d'aventures écrits par des femmes. Vous les avez découverts un peu plus tard que les premiers que l'on a cités. Quelles sont les voyageuses qui vous ont le plus marqué?
Alexandra Davinil, c'est la patronne. Enfin, c'est celle qui a fait les choses les plus extraordinaires. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Bérard, Schwarzenbach, ou Ella Maillard, elles ont vraiment fait des choses extraordinaires. Leur personnalité était toute différente et c'est aussi ça qui m'a intéressée, c'est de voir qu'elles avaient tout un parcours, des destinations différentes. Et ça m'a servi un peu comme des totems, en fait. Ça me permettait de me dire s'il y en a qui l'ont fait, pourquoi pas moi, pourquoi pas d'autres, en fait.
Ces femmes, les quelques noms que l'on vient de citer et d'autres, elles ont été invisibilisées, gommées de l'histoire, ou est-ce que, objectivement, elles ont été moins nombreuses à voyager par le passé, les femmes?
La réponse est entre les deux. C'est tout l'enjeu, c'est-à-dire qu'elles ont été invisibilisées, mais de façon comme l'histoire des femmes, de façon générale, a été invisibilisée. L'histoire avec un grand H, c'est l'histoire masculine. Et en même temps, il ne faut pas non plus nier le fait qu'elles ont voyagé, mais pas autant que les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'interdictions en amont, beaucoup de difficultés. Il faut repousser beaucoup plus de murs.
Oui. Alors dans les interdictions, vous le précisez, le domaine dans lequel les femmes ont été le plus longtemps persona non grata, c'est le monde marin.
Oui, totalement. Ça a été, en fait, longtemps, ça a été une superstition, c'est qu'une femme sur un bateau, ça porte malheur, en fait, comme les prêtres ou les lapins. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment ça, c'est le domaine le pire, je pense, pour les femmes. Et...
À tel point que certaines ont dû se déguiser en homme pour pouvoir embarquer.
Oui, la première femme à avoir fait le tour du monde, en fait, c'est Jeanne Barré qui a embarqué avec Bougainville, déguisée en marin. En tout cas, elle se faisait appeler Jean Barré. Et elle n'aurait pas pu embarquer si elle avait été sous ses habits de femme.
Et puis, il y a cette phrase, alors c'est une petite pique, mais que vous donnez, les femmes et les enfants d'abord, hein, qui donne encore une fois un petit peu la bravoure et la façon de se... C'est une phrase qui n'a pas tellement eu cours dans la marine, finalement.
Non, hein. Non.
Les hommes se sont rarement sacrifiés pour les femmes.
Exactement, en fait, c'est qu'elle est connue parce que c'est l'ordre qui a prévalu sur le naufrage du Titanic, mais ça a été en plus imposé par la force des armes. Et en plus, dans l'histoire, c'est plus souvent les femmes, en fait, qui mouraient dans les naufrages parce qu'elles s'occupaient des enfants, elles avaient plus de vêtements, et donc c'était plus difficile de se jeter dans des canaux ou des choses comme ça.
Alors vous, parlons quand même de vous, dans ces deux minutes qui nous restent, Lucie Azéma, grande voyageuse, votre premier grand périple à 19 ans, en Égypte, puis ensuite au Liban pendant 2 mois. Vous avez aussi séjourné plus longuement en Inde, en Iran. Vous êtes devenue une voyageuse au long cours. À quel regard vous avez été confrontée quand on est une jeune femme que l'on veut voyager seule? Qu'est-ce que vous avez entendu?
C'est tu n'as pas peur, tu vas te faire violer ou tu vas t'arriver des choses. Et je pense que c'est vraiment l'injonction qui ressort le plus, hein, la mise en garde qui ressort le plus, et c'est souvent sous forme de bienveillance en plus. Mais c'est aussi, même s'il y a plus de verrous sur la porte pour empêcher les femmes de voyager, c'est aussi une façon de les dissuader. Ça se concrétise un peu comme ça, et c'est alors que finalement être une femme en général c'est dangereux aussi en France, et le voyage même au contraire ne rend pas les choses plus dangereuses pour une
femme. Que ces voyages vous ont apporté? Je pense à celui en Inde qui semble vraiment vous avoir remise en question en profondeur.
Oui, parce que vraiment l'Inde ça a été l'éclatement de beaucoup de repères, et je pense que c'est là que j'ai atteint ce que je voulais atteindre en voyage, c'est-à-dire vraiment la transformation, enfin une remise en cause personnelle très profonde, et aussi le fait de pouvoir vraiment être seule dans un endroit où vraiment je n'avais aucun repère. Oui.
Ouais. Vous conseilleriez quoi? Parce que vous dédiez votre ouvrage, j'ai plus la phrase devant les yeux, mais à toutes les voyageuses exploratrices découvreuses qui ne se poseraient pas tant de questions si elles étaient des hommes. Qu'est-ce que vous conseillez aux femmes qui voudraient prendre la route?
De réfléchir si elles se posent des questions, ce qui peut y avoir des doutes qui sont légitimes, que les hommes peuvent aussi avoir, mais se dire, est-ce qu'un homme hésiterait exactement pour ces raisons-là? Si la réponse est non, alors c'est qu'il faut y aller.
Merci Lucie Azéma. Je rappelle le titre de votre livre, nos éditions Flammarion, Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ. Un grand merci à vous.
Merci.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast. Merci pour vos messages sur la page Facebook ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À demain pour de nouvelles aventures.